bonjour, merci d'être avec nous. Je m'appelle Hélène Leriche, je suis responsable de la chaire génie civil écologique, dont on dira peut-être un petit mot dans cette seconde table ronde. On a en fait 5 intervenants avec nous, 2 qui sont dans la boîte en train de nous rejoindre, 3 qui sont avec nous. Je vous propose d'organiser les débats autour de ces questions de besoin de formation, de compétences, de recherche autour du canal du Midi, par d'abord une introduction de la part de Patrice Valentin qui va se présenter parce qu'il a mille et une casquettes. Ensuite, on fera un premier point, sur les outils d'accompagnement et en particulier comment des pôles de compétitivité, des projets collaboratifs peuvent permettre de faire des transferts entre recherche et acteurs opérationnels. On se donnera un temps de questions et ensuite on se tournera vers d'autres outils, d'autres dispositifs, notamment les zones ateliers et des formations qui sont actuellement en développement, notamment dans la région, pour pouvoir avancer sur ce sujet. On est plutôt centré sur les outils numériques, on est plutôt au niveau régional, mais évidemment que ce qu'on va se dire cet après-midi dans cette table ronde peut être compris peut-être un peu plus largement et être en résonance avec des enjeux plus larges que cela. Donc en attendant qu'on récupère nos intervenants, Patrice, je te laisse poser l'introduction de cette table ronde.
Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Patrice Valentin, président de l'Union professionnelle du génie écologique. Donc, l'UPGE fait partie des membres fondateurs de l'IGECO avec Révé, Gaillet et Lagédio il y a déjà quelques années. Donc l'Union professionnelle du génie écologique regroupe des entreprises qui travaillent pour la résilience des écosystèmes. Donc, je suis aussi entrepreneur depuis 23 ans en génie écologique. En fait, j'ai commencé comme ouvrier au moment où on parlait à peine de biodiversité en 2002. Donc j'ai grandi un petit peu avec la filière. Et je suis aussi président de la chaire du génie civil écologique qui vise à réintégrer l'urbanisme dans le fonctionnement des écosystèmes. Et non pas à mettre de la biodiversité en ville ou sur les infrastructures, mais bien l'inverse, c'est de nous réintégrer dans le fonctionnement du vivant. Donc d'abord, nous vivons une période extraordinaire. Il y a beaucoup de portes qui se ferment sur l'écologie, des choses qu'on a essayées qui ne fonctionnent pas. Et moi, je suis assez confiant sur l'avenir. Puisque les portes fermées, ben on sait qu'il ne faut pas aller par là, il y a des portes qui s'ouvrent aussi, et c'est celle-ci qu'il faut regarder. Et cette question du pôle d'excellence, qu'il soit pour le canal du Midi ou pour le canal de Nantes à Brest, puisqu'on est quand même quelques Bretons dans la salle, en fait, voilà, c'est le pôle d'excellence qui m'intéresse véritablement, hein, sur la nécessité de créer un pôle qui n'existe pas aujourd'hui. Et je vais revenir simplement pourquoi, en reprenant sur l'historique un peu de la filière, ou même de ce que l'on fait sur la biodiversité. Je vous disais, depuis 2002, Natura 2000, les sommets de la Terre, etc., on commence à bouger un petit peu sur les sujets. Et aujourd'hui, on a bougé beaucoup, beaucoup. Il y a des milliards d'euros qui ont été investis maintenant sur la restauration des écosystèmes. Or, objectivement, le bilan n'est pas bon. On peut le prendre dans tous les sens. Donc il y a peut-être un moment où il va falloir se poser la question de que fait-on ? Est-ce qu'on continue à mettre beaucoup d'argent dans le système ? Ben, peut-être que c'est le moment de changer un petit peu de direction, de repenser les choses de manière plus globale. Pendant longtemps, on a travaillé sur une approche habitat-espèce. C'était les premières directives qu'on a pu avoir. Et là, on est en train de passer sur autre chose, qui est vraiment la question des fonctionnalités et la question d'une vision beaucoup plus holistique et systémique. L'autre point aussi, qui est essentiel dans cet outil que nous proposons, sur lequel nous réfléchissons aujourd'hui, encore une fois, pour le créer, c'est de changer aussi peut-être de registre. On a souvent dit... il faut une prise de conscience. Quand les gens ont pris conscience, on va bouger. Alors je peux vous dire que quand vous avez l'ennemi à vos frontières, le fait d'avoir la conscience que l'ennemi est à la frontière, ça ne change rien sur l'invasion. Il y a un moment, il faut avoir envie de rentrer dedans. Or aujourd'hui, il n'y a personne qui a véritablement envie de bouger, quoi. Donc la question, ce n'est plus la prise de conscience, c'est véritablement l'action. Et cet outil commun que l'on voit développer, il faut vraiment qu'il soit dans cet axe-là, une question d'action et de changement de modèle. Einstein disait « On ne peut pas résoudre un problème avec le mode de pensée qu'il a engendré. » Nous avons un modèle social et économique qui est basé sur la compétition, sur la maximisation de l'intérêt personnel. Chacun travaille essentiellement pour lui-même en espérant que ça va fonctionner. Et nous sommes dans des écosystèmes qui sont basés avant tout sur la relation, sur les interactions, sur le service réciproque et sur le partage. C'est comme ça que fonctionnent les écosystèmes. La vie est basée sur la relation, et nous avons un modèle basé sur la compétition, donc contraire au fonctionnement de la vie. L'inverse de la vie étant la mort, ce qui se passe aujourd'hui est parfaitement normal. Ça ne peut pas être autrement. Et donc la question de notre réflexion, c'est comment est-ce qu'on recommence à penser comme des êtres vivants, parce que notre problème n'est pas du tout écologique. La nature n'a pas besoin de nous pour la protéger. Le génie écologique est le métier le plus stupide qui soit au monde. Le fait d'aller réparer quelque chose qui fonctionne depuis déjà 3,8 milliards d'années. Évidemment, je provoque un peu, hein, c'est le style de la maison. La question, c'est une question qui est humaine. Alors, une des personnes qui m'a le plus inspiré, que certains d'entre vous connaissent ici dans ce domaine-là, c'est Jacques Weber, qui malheureusement est décédé, qui n'est pas un écologue, qui est un anthropologue et économiste. Et qui disait, effectivement, il n'y a pas de problème d'écologie, mais de relation de l'humanité dans les écosystèmes. Voilà, c'est ce pôle de compétences, d'excellence, ce pôle technique, comme on a souvent évoqué avec l'AIGECO, c'est pas la forme qui est importante, c'est ce qu'il doit faire, de nous permettre de pouvoir expérimenter des démonstrateurs pour travailler sur les causes et non pas sur les conséquences. Les conséquences ont un gros avantage, c'est que ça fait tourner la machine économique, et on envoie des ingénieurs à les mesurer, à les compter, etc. Donc ok, c'est très bien dans ce domaine-là. Par contre, ça ne résout pas le problème, et là, on est vraiment quelque chose avec une vision très prospective qui nous dise, en fait, où veut-on aller, quelle est la vision commune. Et le premier objectif, de mon point de vue, de ce pôle, c'est une dimension sociologique de réunir des acteurs sur une vision commune à dimension territoriale. Et c'est intéressant que ce soit marqué, effectivement, ce pôle sur le canal du Midi, parce qu'il faut que ce soit territorialisé. J'ai repris sur le canal de Nantes-Brest, où que ce soit, nous vivons sur nos territoires par rapport au carbone et au climat. L'avantage de la biodiversité, c'est que c'est chez nous. C'est autour de nous, c'est charnel, c'est dans les tripes, c'est autour de nous, etc. Et donc ce pôle doit être capable de proposer aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités, des outils qui vont effectivement dans la même logique, celle de la régénération des écosystèmes, mais non pas dans l'idée, non pas en organisant des colloques et simplement des idées yaka faucon, mais en faisant. L'avantage de la recherche empirique, c'est qu'on se trompe souvent, on a des échecs, et c'est par l'échec qu'on apprend le plus. Donc, ce ne sont que des intuitions, et après on lance effectivement le débat. Comment peut-on faire dans cette grande période d'opportunité, qui n'a jamais été aussi importante en raison à la fois des déséquilibres des écosystèmes, mais surtout un petit peu des barrières qui se posent dans les contraintes réglementaires qui sont en train d'être plus ou moins torpillées à droite à gauche, le manque d'argent. La question financière a été évoquée dans la table ronde de tout à l'heure. Il n'y a pas d'argent, dont acte. Mais comment on fait quand même? Pour moi, ce n'est pas en fonction des moyens qu'on va se battre. C'est d'abord qu'est-ce que l'on veut comme résultat, et puis après, avec les moyens qu'on a, on se débrouille pour atteindre effectivement ce résultat. Donc voilà, c'est l'intuition que nous avons depuis très longtemps sur ce type d'outils qui reprennent des acteurs en grande diversité, des acteurs de l'économie, des acteurs de l'agriculture, de la forêt, de l'écologie, etc., pour se dire finalement, il n'y a qu'une seule solution, c'est une révolution non violente. La révolution n'est ni la révolte ni la table rase, mais un changement radical des modes de pensée, des modes de vie, des modes de consommation. Et parce que la relation humaine, en fait, c'est ça qui rend heureux. Donc faisons-le surtout pour nous amuser, quoi.
C'est mieux quand c'est lui qui fait l'intro. ça lance le débat. Et donc là, on se centre sur ces questions de formation et de transfert de connaissances et de compétences. Et comme je crois qu'on a toujours pas Monsieur Philippe Cotelin, membre du pôle de compétitivité Infra 2050, et ben je vais proposer à Monsieur LG qui est avec nous, qui est enseignant-chercheur à Toulouse INP, peut-être de nous parler de son expérience, quitte à ce qu'après on reboucle dans l'autre sens. Ça vous va ?
Très bien, bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais vous parler notamment d'un dispositif orienté vers la recherche-action. Qui est le réseau des zones ateliers. Alors, j'avais quelques diapos éventuellement pour illustrer le propos. Alors les zones ateliers, je ne sais pas parmi vous qui a déjà entendu parler des zones ateliers. Voilà, pas grand monde, je m'en doutais. Il y a d'autres dispositifs un peu peut-être dont vous avez pu entendre parler, par exemple les observatoires au milieu, les OHM. Ça parle à quelqu'un? Là, il y a des mains qui se lèvent. Ou encore le réseau OSCAR, Observatoire de la Zone Critique. Voilà, c'est un réseau alors là, plutôt orienté géosciences, dans lequel on a une soixantaine de sites instrumentés rattachés à différents observatoires d'environnement. Alors tous ces dispositifs ont en commun de s'appuyer finalement sur des infrastructures un peu pérennes qui sont orientées notamment vers le suivi de l'environnement sur le long terme. Et ce sont des dispositifs qui ont vocation à animer des recherches qui se veulent interdisciplinaires. Alors longtemps, voilà, le mot d'ordre c'était l'interdisciplinarité, on faisait travailler ensemble des chercheurs issus d'horizons différents. Alors aussi bien, je parlais de géosciences, mais également des écologues, des géographes, avec plus largement des SHS, des économistes de l'environnement par exemple, dans l'actuel, mais aussi dans les mondes anciens, avec des interactions également avec les archéologues par exemple. Et puis plus récemment, j'évoquais les sites instrumentés, le besoin d'avoir des outils pour suivre l'environnement sur le long terme, donc le recours à des outils un peu plus technologiques, et donc également l'ouverture vers des laboratoires orientés nouvelles technologies, donc informatique, électronique, etc.
Vous voulez qu'on passe à la suite ?
Alors peut-être on peut le passer à un grand écran, je ne sais pas si c'est...
Le problème c'est qu'on a il faut qu'on ait la fenêtre à côté.
Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'une zone atelier ? Une zone atelier, donc, je l'ai évoqué, c'est un dispositif de recherche qui est labellisé par l'Institut écologie et environnement du CNRS, qui est également soutenu par d'autres établissements de recherche, par INRAE notamment. C'est un dispositif qui est également porté par le ministère. Alors, jusqu'il y a peu, donc, c'était à l'ENVI, donc l'Alliance nationale de la recherche pour l'environnement, qui avait été donc, depuis 2010 un des acteurs importants pour appuyer finalement cette dynamique. Hein. Donc, à l'ENVI, c'est une des 5 alliances thématiques de la recherche française. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Et donc, les zones ateliers donc, s'appuient sur un schéma conceptuel qui est celui des socio-écosystèmes. Alors, longtemps, les écologues avaient des schémas conceptuels desquels soit l'humain était absent, soit il était présent uniquement par rapport à l'effet perturbateur qu'il générait. Et là, ce schéma socio-écosystémique qui a été justement proposé par le réseau des zones ateliers, piloté à l'époque par Vincent Bretagnol, insiste vraiment sur cet interfaçage très étroit, cette imbrication entre une composante sociétale, donc à gauche en bleu, et une composante biophysique à droite, ici sur le schéma en vert. Et donc ces interactions très fortes entre ces deux composantes, elles passent notamment par deux interfaces, donc depuis la sphère sociétale vers la sphère biophysique, vous avez une première interface qui est l'interface concernant les pratiques finalement humaines et leur influence donc sur le biophysique. Une interface de gestion qui dans l'idéal est une gestion adaptative et inversement depuis la sphère biophysique jusqu'à la sphère sociétale vous avez une autre interface qui est importante, c'est celle évidemment liée à la fourniture des services écosystémiques. Alors ceci étant dit, bon, on a l'impression voilà, qu'on a un système en équilibre. Il y a plusieurs choses qu'on peut ajouter par rapport à ce schéma, c'est le fait d'une part que une question importante qui va se poser à nous, c'est celle de la trajectoire, des trajectoires que peuvent prendre ces socio-écosystèmes. C'est donc vraiment l'un des enjeux des études menées dans les ateliers. Et l'autre aspect, c'est que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler récemment de cascade des services écosystémiques. Maintenant, il y a une façon de voir les choses où on ne met pas forcément au même niveau ces différents aspects, les deux interfaces que j'ai évoquées, mais plutôt l'idée qui est finalement qu'il y a comme un peu une différence de potentiel entre, pour faire une analogie, donc avec, soit avec l'électricité, soit avec l'hydraulique, avec le fait qu'on a une sphère biophysique, quand l'écosystème fonctionne bien, on a justement la possibilité de bénéficier des services écosystémiques, donc on parle des fonctions qui se déroulent au sein de l'écosystème, qui peuvent générer des bénéfices pour la société au travers des services, et à charge ensuite aux sociétés humaines d'avoir développé un mode de gestion, je parle de gestion adaptative, qui permet d'entretenir ces services, donc ce potentiel, auquel cas, si c'est pas ce qui est réalisé, et bien finalement cette différence de potentiel elle va s'amenuiser, et finalement la possibilité de tirer profit de ces services eh bien, elle va diminuer si on ne prend pas des mesures de gestion appropriées. Passer à la suite. Donc juste en deux mots, hein, ces zones d'atelier reposent sur plusieurs piliers, elles sont donc ancrées territorialement, donc ça c'est important, pour l'unité fonctionnelle, donc ça peut être une chaîne de montagne, une rivière, une ville, par exemple une zone d'atelier urbaine à la région de Strasbourg. Donc j'évoquais ce souhait de faire de recherche interdisciplinaire, recherche également sur le long terme, et enfin... thématiquement, donc des questions d'écologie fondamentale qu'on n'abandonne pas, qu'on ne perd pas de vue. Hein. C'est Sébastien Gallet ce matin qui parlait de l'importance de la formation et de la recherche. Hein. J'aime bien donner quelques exemples pour en reparler, mais sur la durée en termes de transfert, par exemple, quand on prend les concepts fondamentaux et leur application, souvent on a 10 à 30 ans. Hein, si vous prenez par exemple que ce soit la notion de service écosystémique. En fait, on parlait déjà de fonctions écosystémiques dans les années 70. Dans les années 90, on a les travaux de Robert Costanza sur les services, sur la monétisation aussi de ces services, des écosystèmes, etc. Et finalement, c'est dans les années 2010, 2016, donc les lois réglementaires en France, le Green Deal européen qui intègre vraiment ces notions-là. Idem sur des aspects de connectivité écologique. Hein, la connectivité écologique, ça dérive directement de la théorie de la biogéographie insulaire dans les années 60. Ensuite, vous avez tous les travaux en écologie du paysage, format Négodron dans les années 80. Et puis finalement, les trames vertes et bleues qui dérivent directement de ces concepts, c'est le Grenelle de l'environnement, grosso modo, 2007. Donc, vous voyez ce delta. Et donc, c'est important d'avoir finalement cette connexion entre les concepts fondamentaux et les applications pour répondre aux enjeux sociaux. Et donc, les zones ateliers s'appuient sur un potentiel de chercheurs, je vais en dire deux mots plus localement, sur les ateliers de Pyrénées-Garonne, mais également sur un réseau d'acteurs. Et un des grands enjeux pour nous dans les zones ateliers, c'est vraiment de fédérer autant que possible ces interactions entre le chercheur et acteurs du territoire, et en s'appuyant également sur d'autres dispositifs qui vont dans le même sens. Alors, juste pour dire que les zones ateliers s'inscrivent dans le cadre d'un réseau national. Donc actuellement, on a 16 zones ateliers, donc principalement en France métropolitaine, mais vous voyez sur la carte en haut, on a également des territoires ultramarins et également une zone atelier en Afrique du Sud, aux îles d'Avoué pour être précis. Ce réseau de zones ateliers, c'est une infrastructure de recherche, hein, donc labellisée, je l'ai évoqué depuis 2018. Suivante, s'il vous plaît. Et alors, quelques mots sur la zone atelier Pyrénées-Garonne, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, hein, qui est donc l'une de ces 16 zones ateliers. C'est la suite. C'est une zone atelier qui fédère une vingtaine de laboratoires de recherche partenaires. Alors, j'ai déjà évoqué la diversité thématique, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas vous donner la liste de ces 20 labos, si ça vous intéresse, vous pourrez les trouver. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un potentiel de plusieurs centaines de chercheurs. Donc évidemment, tous ces chercheurs ne sont pas impliqués au jour le jour nécessairement dans la zone atelier, mais en fonction des enjeux, en fonction des questions identifiées, on peut mobiliser les chercheurs de ces laboratoires pour répondre et aller dans l'idéal vers une co-construction de projets entre chercheurs et acteurs territoriaux. Voilà, réseau d'acteurs, hein, j'en ai déjà parlé, hein, donc c'est quelque chose qui se structure sur le long terme. Hein, là, récemment, on a eu la semaine écologie, environnement, biodiversité du CNRS avec des actions en région. On a donc mené une journée sur le thème de l'agroécologie à Cazères-sur-Garonne, à mi-chemin pour ce monde entre Toulouse et les Pyrénées. On a eu environ 70 personnes, une majorité d'acteurs territoriaux. L'an dernier, c'est une manifestation similaire à Guarance, on a une centaine de personnes. Donc petit à petit, on construit ce réseau d'acteurs et vous le verrez dans les projets qui impliquent la zone atelier. Je pourrais illustrer plus en détail avec des exemples un petit peu plus concrets. Voilà, géographiquement, la zone atelier, vous avez son périmètre ici en plein noir sur la carte. Donc c'est le bassin versant amont de la Garonne. Donc c'est une surface étendue, hein, environ 30 000 km², mais avec des recherches qui se concentrent principalement sur 4 sites ateliers. Donc vous avez en couleur ici, donc vous avez l'axe fluvial garonnais, vous avez les forêts et vignobles de Gaillac, les Pyrénées, et en jaune ici, vallées et coteaux de Gascogne. Alors, un des aspects importants de la zone d'atelier, je l'évoquais tout à l'heure, hein, ce sont les recherches à long terme. Et donc, on a plusieurs observatoires portés notamment par la zone d'atelier Pyrénées-Garonne. On va l'illustrer ici. Alors, par exemple, l'observatoire sur le bassin versant Doradé, dans le Gers. Donc, c'est un bassin versant de petite taille, 300 hectares. On peut parler de bassin versant expérimental, parce qu'en fait, à cette échelle-là, on va pouvoir intégrer très facilement tout ce qui se passe à l'échelle du bassin via des mesures hydrochimiques à haute fréquence à l'exutoire, donc c'est ce que vous voyez ici. Et donc, c'est des mesures qui sont réalisées pour certaines d'entre elles depuis une quarantaine d'années. Alors, au départ, c'est un observatoire qui a été mis en place par AZF Grande Paroisse avec des enjeux sur l'azote. Alors, des enjeux sur l'azote qui n'étaient pas les mêmes exactement qu'aujourd'hui. Le premier enjeu à l'époque pour AZF Grande Paroisse, c'était de faire prendre conscience aux agriculteurs qui perdaient de l'azote. Que donc pour maintenir la fertilité de leur sol, il fallait en ajouter. Les enjeux ensuite ont évolué un petit peu. Le portage de cet observatoire est passé en fait au laboratoire, donc actuellement le CRBE, donc qui est un des labos, donc le centre de recherche de la biodiversité et l'environnement, qui est un des labos donc de la zone atelier. Et les enjeux se sont un peu déplacés avec une première question qui était de dire voilà, les pertes d'azote, effectivement, on peut les complémenter en fertilisant. Mais ça représente un coût pour l'agriculteur, donc autant limiter, réduire autant que faire se peut ces pertes d'azote avec des pratiques culturales qui vont permettre de réduire ces coûts. Et donc, encore une fois, les suivis à l'exutoire permettent de voir, donc, d'intégrer à des échelles de temps diverses vraiment la réponse finalement aux pratiques qui sont mises en œuvre. Et puis plus récemment, évidemment, sont arrivés les enjeux environnementaux, hein, enfin, je ne sais pas si c'est récent, ils existaient déjà, mais projecteur davantage focalisé dessus, avec la question de comment finalement limiter l'eutrophisation des cours d'eau, là encore en gardant l'azote sur les terres agricoles plutôt qu'en ayant des transferts. Pour la petite histoire, c'est sur ce site d'Oradé qu'ont été testées pour la première fois à l'échelle nationale les bandes enherbées qui aujourd'hui donc, voilà, sont mises en place dans des réglementaires autour des cours d'eau. Et donc notamment grâce à un collectif d'agriculteurs, le groupement des agriculteurs de la Gascogne-Toulousaine, qui est un des partenaires, des acteurs territoriaux, des partenaires historiques de la zone atelier. Je vais aller un petit peu plus vite sur les trois autres exemples, hein, simplement pour dire que sur les suivis de biodiversité, on utilise l'acoustique passive depuis la fin des années 90 dans la zone atelier, hein, donc avec un suivi qui s'est généralisé. Donc avec aujourd'hui bon, une évolution, hein, avec la possibilité d'utiliser des algorithmes pour traiter de manière automatisée l'environnement sonore et notamment identifier par exemple les espèces d'oiseaux présentes. Également des suivis des flux de gaz à effet de serre et d'eau aux interfaces sol-végétation-atmosphère. Donc là c'est également sur le site d'Oradé, réalisé notamment par les collègues du CESBIO, le Centre d'études spatiales de la biosphère. Et enfin, notre exemple, donc plus récemment, mais bon, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, des suivis là aussi à haute fréquence concernant le cycle de l'eau et du carbone sur les courbières d'altitude, donc menés également dans le cadre de la zone atelier et en partenariat avec l'observatoire au milieu des Pyrénées. Alors, une des vocations de la zone atelier, c'est également de soutenir de nouveaux projets. Alors le budget de fonctionnement de la zone atelier n'est pas forcément très important. On va soutenir des petits projets à hauteur souvent de quelques milliers d'euros pour lancer de nouvelles collaborations entre des laboratoires de recherche qui ne fonctionnaient pas ensemble jusqu'à présent, entre des laboratoires et des partenaires territoriaux. Et on a vraiment un effet levier par contre qui est assez important. La zone atelier commence à être bien identifiée, notamment à l'échelle régionale par la région Occitanie et au-delà. Et une bonne partie de ces petits projets finalement vont vivre leur vie et ensuite pouvoir fonctionner avec des financements plus importants de la région, de l'ANR ou de l'Europe. Alors juste quelques exemples, hein, je n'ai pas forcément tous les cités, mais pour montrer un peu la diversité des thématiques qui sont couvertes. Certaines d'entre elles sont clairement en phase avec les questions de l'ingénierie écologique. D'autres peuvent concerner d'autres aspects. Je parlais tout à l'heure d'archéologie, de paléoécologie en général. Vous avez également ce travail avec des collègues qui fonctionnent avec des archives environnementales qui permettent aussi d'éclairer finalement les tendances actuelles avec des informations ici du passé. Grâce à ce travail avec les paléo-environnementalistes. Voilà, dernière diapo. La zone atelier, c'est également une porte d'entrée pour des projets structurants à l'échelle nationale, de par notamment cette dimension de réseau que j'évoquais. Donc, deux exemples ici. Alors, le projet Terraforma, qui est donc un projet axé sur le développement instrumental, mais pas que. Vous pouvez voir qu'il y a tout un environnement autour. L'enjeu pour nous dans ce projet, c'est de développer en fait une nouvelle génération d'observatoires de l'environnement qui est basée notamment sur des capteurs communicants. Alors dit comme ça, on pourrait se dire que les ateliers sont passés du côté obscur et ont cédé aux technosolutionnistes. En fait, ce n'est pas ça du tout. Au contraire, on considère que les approches basées sur des capteurs utilisés de manière intelligente peuvent même, dans certains cas, s'inscrire complètement dans des approches low-tech. Hein, le but, ce n'est pas de mettre des capteurs partout sans réflexion, mais c'est vraiment de réfléchir à l'utilité de ces mesures, de fonctionner autant que possible avec des systèmes ouverts, donc des systèmes qui ne voilà, qui sont pas fermés par des systèmes propriétaires, mais qui vont permettre une appropriation large par différents acteurs territoriaux. Et donc, voilà les enjeux importants ici sur le développement instrumental, sur la manière de traiter ces flux et de données issus des capteurs. Et enfin, un deuxième exemple, c'est le projet Solubiode, donc le programme national de recherche sur les solutions de la nature. Qui est notamment structuré au travers de 11 Living Labs, et donc vous avez notamment le Living Lab Gascogne dans le sud-ouest qui apparaît ici, qui est donc qui a été mis en place au niveau de la zone atelier, donc Pyrénées et Garonne.
Living Lab, zone atelier, synonyme?
Alors c'est pas complètement synonyme parce que bon, on pourrait dire voilà, les zones ateliers s'inscrivent dans cette dynamique de laboratoire vivant, hein, mais voilà, ça, les zones ateliers, les premières ont été mises en place au début des années 2000, hein, donc elles ont un peu plus de 20 ans avant qu'on parle du Living Lab, mais finalement il y a une logique un peu similaire, et donc le Living Lab Gascogne dans le cas présent, c'est un périmètre un peu plus restreint que la zone atelier, qui va être focalisé, ça rejoint un peu ce que je disais sur les sites ateliers, c'est des secteurs à enjeu où on concentre en fait les moyens, les recherches et les interactions avec les acteurs territoriaux.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a un petit souci technique, vous avez remarqué. Donc là, on est en train de changer d'ordinateur parce qu'on a récupéré la personne qui devait parler avant. Du coup, le temps qu'on arrive à charger, est-ce que vous aviez des questions par rapport à cette première présentation, au lieu de faire des questions à l'interruption? Non, c'est clair? Oui? Non? Vous connaissiez les zones ateliers, les Vinlabs, les territoires d'expérimentation, les transferts oui. Je ne sais pas si je suis censée vous passer un micro.
Merci beaucoup et merci pour la présentation. Moi, la question qui me vient, du coup, c'est en lien avec le programme Solubiode. Comment ces zones ateliers en fait sélectionnent les axes de travail sur lesquels elles vont s'impliquer dans le cadre de Solubiode? Est-ce qu'il y a des axes de travail qui sont, enfin, des travaux qui sont privilégiés et comment se passe la coordination en fait entre
alors,
ces deux organisations?
Évidemment derrière ça il y a une dynamique humaine et un petit peu historique au niveau des recherches qui sont menées. Alors sur les différents exemples de projets que j'ai montrés qui ont été soutenus par la zone atelier, j'ai pas insisté sur l'un des projets que j'aurais pu développer un peu plus, qui est le projet PAX, qui est sur les paysages et les compromis entre services écosystémiques. Et donc c'est un projet dans le cadre dans lequel on a développé le couplage de différents outils de modélisation pour appréhender la manière dont différents scénarios d'évolution paysagère pouvaient influencer à la fois les services écosystémiques, donc ceux liés notamment au service de pollinisation, ceux liés au service d'épuration, qualité d'eau, mais également des modèles économiques sur la manière dont les pratiques mises en place allaient impacter les revenus des agriculteurs. Et donc c'est ce type de projet donc, qui existait déjà avant Solubiode, qui impliquait donc, le CRBE, DINAFOR, le LEREP, son laboratoire d'économie. C'est ce type de projet qui finalement a permis de faire le lien et a conduit les porteurs de Solubiode à proposer l'intégration de Living Lab dans la zone atelier. Et du coup thématiquement c'est vraiment une poursuite de ces questions-là, avec bon, des moyens renouvelés et puis le fait voilà, en mettant un petit peu les ambitions, on va un petit peu plus loin que ce projet initial, mais on est toujours dans cette dynamique.
Et pour la petite histoire, il y a eu un appel à projet sur du BIOD, là, qui, vraisemblablement, a eu énormément de succès. Et ils ont beaucoup, beaucoup de candidatures. Donc, ça a l'air d'être un véhicule qui, en tous les cas, résonne pour les acteurs et donne envie d'avancer sur ces sujets.
Tout à fait. Tout à fait. Le fait d'avoir un Living Lab territorial dans notre secteur, effectivement, ça aide à aller dans ce sens-là. Mais c'est effectivement, on le voit au travers de ce qui a été discuté également ce matin, sur Fondation de la Nature, certes, c'est pas nouveau, c'est une manière effectivement de présenter les choses, de donner un cadre un petit peu renouvelé, mais en reprenant finalement des problématiques, des concepts ou des outils plus anciens. Mais en tout cas, il y a un engouement actuellement, une prise de conscience sur l'importance de ces approches. Et donc on peut se réjouir effectivement de ces dispositifs. Donc Solubiod, c'est un PEPR, donc programme, équipement et projet de recherche prioritaire. Qui est donc un des instruments de la recherche française actuellement sur lequel il y a pas mal de moyens qui sont concentrés pour avancer justement sur des thématiques à enjeu.
Sur des thématiques et des territoires, enfin des démonstrateurs, je pense qu'on n'a toujours pas retrouvé notre intervenant, donc je continue mes questions. Quand on s'était rencontrés pour préparer cette table ronde, c'est un peu à côté mais ça me paraît important. Vous aviez précisé que vous étiez enseignant à Agro-Toulouse, mais que vous avez participé à la formation des hauts fonctionnaires, justement sur ces questions de SFN. Est-ce qu'ils suivent ? Est-ce qu'ils sont appétents ? Est-ce que c'est quelque chose qui monte aussi ? Voilà.
Alors, en effet, peut-être que vous avez suivi ça. C'est donc une action qui a été politique, gouvernementale, qui a été initiée, l'idée de former les hauts fonctionnaires aux problématiques environnementales, notamment de biodiversité et de changement climatique. Et donc, on est un certain nombre de collègues à avoir été sollicités pour assurer les formations dans ces différents domaines. Et donc, j'ai eu l'occasion d'intervenir à deux reprises sur les aspects de la biodiversité et le fonctionnement de l'écosystème, avec des publics assez hétérogènes. Dans la même salle, on peut avoir effectivement des responsables de direction technique des territoires, donc ils sont déjà au fait de pas mal de choses, comme on peut avoir des magistrats, qui ont quasiment jamais entendu parler de l'université, si ce n'est de manière très macro dans les médias. Quoi. Et donc, l'enjeu, c'était de partir finalement de la base, tout en allant finalement assez loin pour montrer, à partir de concepts scientifiques, enfin, en tant qu'enseignant chercheur, j'aime bien avoir cette approche-là, à partir de concepts, mais assez rapidement arriver dans l'opérationnel quand même, montrer qu'il y a vraiment du concret derrière et qu'il y a la possibilité d'amener des réponses à des problématiques sociétales. Donc les deux fois que je suis intervenu jusqu'à présent, c'était en salle. Et là, par contre, actuellement, on est en train de se monter des enseignements terrain. Donc j'ai suivi ça d'un petit peu loin, mais voilà, c'est en train de se mettre en place. Et normalement, il devrait y avoir une suite. Donc avec cette fois-ci, des approches plus concrètes sur le terrain. Et donc pour répondre à la question, oui, il y a une appétence. Hein, je veux dire, les interlocuteurs que j'ai pu avoir, bon, généralement, les personnes qui s'étaient inscrites sont quasiment plus venues.
C'est obligatoire comme formation ou c'est volontaire ?
Alors, dans l'idée, normalement, c'était comme une incitation forte à le faire, une sorte d'obligation. Après, je ne pense pas qu'il y ait un filage pour des choses de manière triviale. Donc, bon, c'est bien, ça ne vient pas. Je ne pense pas qu'elles soient inquiétées ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même eu une incitation forte. Mais quand même, les gens sont venus, je pense, avec une certaine curiosité, une certaine appétence quand même. Et donc, voilà, les questionnements, outre la difficulté de gérer un public très hétérogène, on a eu quand même à chaque fois des questions intéressantes qui permettent des discussions collectivement dans le groupe.
De réappropriation des sujets.
Qui vont dans certains cas jusqu'à de réappropriation des sujets.
Écoutez, si ça vous va, on va continuer dans l'improvisation puisqu'on n'a toujours pas retrouvé nos deux intervenants. Donc je vous propose de revenir plus tard quand on retrouvera M. Philippe Cotland et de passer du coup, je dirais, au volet suivant qui est au volet vraiment formation. Alors, c'est pour ça qu'on a un peu bavé la voie avec cette question-là. Et ce qu'on aurait fait aussi, du coup, avec M. Bortmeyer, mais on a la chance d'avoir M. Simonet avec nous, et qui devait justement nous parler de son expérience et des formations qu'il propose aux générations futures pour les ancrer dans les sujets.
Tout à fait. Donc, je vais me présenter. Je suis Bruno Simonet, formateur en lycée agricole qu'on appelle les maisons familiales et rurales. Sont des associations, loi 1901, et donc on est maillé sur le territoire avec 400 établissements et 800 dans le monde. Localement, nous, dans la région Occitanie, on a environ 13 établissements, et le nôtre en particulier, qui est à Saint-Cernin-sur-Ance, dans l'Aveyron, entre Albi et Millau, Et on a comme formation pour les jeunes, puisqu'on parle de la formation initiale, des formations allant de la 3e au BTS sur les métiers en lien avec la gestion et la protection de la nature, la gestion des milieux naturels et de la faune. Donc à ce titre, nous avons en main notre avenir, puisque les jeunes, c'est notre avenir. Et on a un bel avenir devant nous, je peux vous rassurer que les jeunes sont bien. Donc, et c'est important de les garder bien, parce qu'avec l'éco-anxiété que j'entends parfois, ça ne les aide pas à se construire et à nous construire notre avenir. Donc à ce titre, dans la construction de cet avenir, on a des formations que l'État nous propose de dispenser, qui sont d'un niveau Bac plus 2. Donc les lycées agricoles peuvent proposer des BTS. Ces BTS, de par le niveau européen, tendent à passer au niveau Bac plus 3. Et donc on a réfléchi au niveau de l'école Valerance, hein, la maison familiale rurale Valerance, que proposer aux professionnels comme formation qui permettent de répondre aux attentes des professionnels dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est que proposer aux étudiants pour leur donner l'envie de réussir dans ces formations-là, et qui sont des formations d'avenir, parce que le citoyen vit dans la nature et ce n'est pas la nature qui vit dans le citoyen. Et ensuite, c'était que proposer comme formation aux universitaires qui puissent leur permettre de nous accompagner, parce qu'on n'a pas le droit en France de délivrer des diplômes de niveau licence dans les lycées agricoles. Donc avec ce triptyque qu'il a fallu accompagner et résoudre, on a, au regard des entreprises que vous êtes, au regard des collectivités aussi, puisqu'on est très impliqué dans les, tout ce qui est conseils municipaux, tout ce qui est comité scientifique des parcs, donc nous-mêmes formateurs qui sommes acteurs aussi du territoire, on a proposé une formation innovante qui s'appelle « Sciences et technologies appliquées à la nature ». Où ça rejoint un peu la table ronde, donc on a un triptyque qui est fondateur de cette formation. Un premier pilier qui est sur tous les outils technologiques en lien avec le suivi de la nature, drones, éco-acoustique, bioacoustique, photos, vidéos. Donc c'est une formation que vous pourrez retrouver sur le site de l'université Jean-François Champollion d'Albi, puisque c'est notre partenaire de formation qui détient le diplôme. Et ça, c'est le premier pilier, le pilier technologique. Puisque les évolutions technologiques avancent, il faut avancer avec les évolutions technologiques, et c'est indéniable. Ensuite, nous avons un pilier botanique. Pourquoi ? Parce qu'il manque de botanistes sur le territoire, et beaucoup de vos structures de génie écologique et d'expertise naturaliste manquent de botanistes. Donc, à ce titre, on a mis le pilier botanique. Et donc c'est vraiment en réponse aux professionnels que l'on a monté aussi cette formation. Et le troisième pilier, c'est un pilier plus sur les nouveaux modes de communication, carte mentale. Et donc je voyais le président de l'UPGE qui justement utilise, je l'ai vu à travers sa présentation, une carte mentale pour faire son introduction. Et c'est ça les nouveaux outils technologiques. L'intelligence artificielle qu'on a débattu toute la journée sur l'intelligence artificielle au profit de la nature. Les idées, les outils de design graphique, les réseaux, les sites, les compétences cognitives, relationnelles, puisque tout se passe qu'entre humains, d'accord ? Même si l'intelligence artificielle est importante, la décision est humaine. Et les sciences participatives, parce que on a besoin de tout le monde pour avancer. Voilà. Donc, si un des intervenants veut prendre, comme la connexion est pas trop stable, il n'y a pas de souci pour laisser. Donc on a réussi à faire cette formation licence, Bac plus 3, qui va démarrer en septembre sur ce triptyque et qui a comme ambition de répondre aux sociétés qui interviennent dans le milieu naturel, qui a pour aussi vocation de répondre aux ambitions des étudiants, parce que c'est eux qui se forment et non pas l'inverse. Donc c'est de par eux qu'on doit aller, et ensuite qui doit répondre aussi au cadre européen de Bac plus 3. Voilà, donc ça se passe dans le sud d'Aveyron, à Saint-Cernin-sur-Rance, qui est dans l'appellation Occitanie, région Occitanie, écoutez bien, qui est dans la catégorie ville universitaire en zone rurale. Donc nous, 450 habitants, on est fiers d'être ville universitaire à ce titre grâce à Champollion. Voilà. Donc un grand merci aussi à tous les acteurs qui nous ont accompagnés, le parc, la région, le parc naturel régional des Grands Causses. Donc on dit que le Sud Aveyron est une zone grise de par les projets ou la recherche ou X ou Y débat, mais non, il y a des gens qui travaillent et qui avancent, et il y en a que vous connaissez aussi très fortement dans le coin. Voilà. Donc un projet innovant sur les nouvelles technologies, sur tout ce qui est acteur pour le bien-être de la société dans la nature. Voilà.
Outiller les jeunes et
les jeunes connaissent beaucoup plus de choses qu'on ne le croit et utilisent beaucoup plus d'outils qu'on ne le pense pour justement résoudre leurs problématiques qu'on leur pose.
Mais ils sont nés avec.
Ils sont nés avec et il faut être positif tous les jours pour eux.
Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions en particulier sur ce projet? Ou est-ce que... Alors, je vais faire le saumon, du coup, excusez-moi, mais puisqu'on est dans la formation, je veux bien qu'on vienne d'abord auprès de monsieur Bortsmeyer, si vous voulez bien. Bonjour. Ah, on ne vous entend pas très bien. Vous pouvez réessayer? Ah, on vous a perdu. Abracadabra. Alors, je vais le présenter en attendant qu'on le retrouve, peut-être. Donc, monsieur Martin Bortsmeyer est au ministère de l'écologie, au CGDD. Spécifiquement, vous connaissez, j'imagine, le Commissariat Général au Développement Durable. Sur les sujets de formation, il est en lien avec les autres ministères pour, comme il dit, mettre plus de verre. C'est avec des guillemets. Et il est en charge, notamment, il représente le ministère dans l'instance de pilotage d'une AMI, qui est l'AMI Compétences Métiers d'Avenir France 2030, qui a un petit nom, qui s'appelle la MICMAC, qui cherche à financer et à diagnostiquer les besoins de compétences et de formation avec la coopération de l'UPGE, me semble-t-il, étant donné mes petites notes. Et il est aussi dans d'autres instances avec l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture, avec les questions d'enregistrement des certifications. Et donc, on lui avait proposé de nous rejoindre justement pour parler de l'AMI compétences et métiers d'avenir, pour voir dans quelle mesure cette structuration d'enseignement avec des entreprises permet de répondre aux enjeux. Du coup, Patrice, tant qu'à improviser ou peut-être sinon Yannick, vous avez participé à ce travail. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Yannick, tu veux bien faire le gentil homme surprise de la table ronde. Donc je vous présente le DG de l'UPGE, Yannick Autré.
Merci beaucoup. Le temps que Martin arrive à se connecter, donc effectivement, bonjour à tous. Désolé d'arriver un petit peu tard, mais effectivement, aujourd'hui, c'est la journée où tout s'empile. J'étais ce matin sur Paris avec un bilan carbone désastreux pour arriver ici.
Tu nous sauves donc.
Donc sur l'AMI CMA, c'est une initiative effectivement qui a été prise l'année dernière par l'UPGE et la IGECO d'initier un pré-projet qui avait été retenu. La première maquette qui avait été déposée dans ce cadre-là n'a toutefois pas pu aboutir pour tout un tas de raisons liées notamment à la définition du cadre et à la nécessité de vraiment définir les objectifs sur les métiers qui étaient visés. On a travaillé depuis le mois de janvier maintenant, donc avec Martin, avec Mélanie aussi, pour redéfinir ce nouveau cadre. Volontairement, on n'a pas préparé de dossier pour cette année, parce que l'AIGECO remontait en puissance, l'UPGE était en voie de réinvention, et on a souhaité vraiment aussi pouvoir faire une proposition qui soit beaucoup plus intégrée, beaucoup plus stratégique sur l'ensemble du spectre qui était ciblé, afin vraiment, quand on va se lancer dedans, pouvoir adresser l'ensemble des acteurs. On ne peut pas se permettre d'être en deuxième catégorie pour lancer le système. Il faut vraiment pouvoir être à la pointe. Ce qui a été aussi décidé, ça a été vraiment d'élargir le partenariat. Donc au-delà du PGE, au-delà de l'AIGECO, il y aura d'autres partenaires qui vont arriver dedans, mais il faut vraiment que nous, on puisse vous proposer quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc on a prévu un petit atelier normalement demain, donc c'est pour ça que je te dis que tu me prends un chaud vu la canicule. Mais c'était tu
c'est
anticipé.
Du lancement, c'est bien. Ouais,
exactement, c'est plus qu'un teasing. Voilà, donc on a prévu un petit temps de brainstorm demain en marge de l'Assemblée générale de l'AIGECO pour avancer dans notre réflexion. Et je pense qu'à partir de la rentrée, on aura vraiment une stratégie qui va mettre en coopération et ce qu'on mène ensemble avec l'AIGECO dans le cadre du projet européen du Life Biodiff France et ce qu'on pourrait être amené à mener à l'avenir dans le cadre de la MICMA. Et je profite que Hélène soit à côté, mais il est certain que l'enseignement supérieur et la recherche, elle avec la chaire, sera forcément un des partenaires clés. Et j'avais encore d'autres instituts de recherche ces derniers jours, et pas plus tard que ce midi, au téléphone. Et clairement, on a besoin d'avoir un spectre complet du système de l'enseignement pour pouvoir le faire.
Merci, monsieur, pour l'intro et le rebond. Monsieur Borsmeyer, on va essayer de vous entendre pour voir. Vous nous entendez ? Vous ne nous entendez pas, je pense.
Bon, le temps, je continue. Oui, voilà. La relève de mon délégué général sur la question de la formation. Donc, ah, j'ai...
Oui ?
Non, c'est pas ça. Oui.
Attendez, on va essayer un truc.
On va bricoler.
Vous pouvez parler, qu'on voit si on vous entend.
Est-ce que tu peux parler maintenant ?
Bon, alors du coup, Patrice, si tu veux bien rebondir.
Oui, donc j'ai fait mon introduction sur le pourquoi, et je ne suis pas rentré dans le détail, puisqu'en l'occurrence, c'était un petit peu la suite, mais le sujet de la formation, il est totalement déterminant, et pour moi la formation, ce n'est pas simplement les compétences techniques, comme je l'évoquais, c'est la question du changement de regard. Aujourd'hui, la croissance de la filière du génie écologique, c'est au minimum 15% par an, sur les 7 dernières années, et les études que l'on a réalisées nous donnent à peu près la même chose, et à mon avis, on est très en dessous de ce qui va se passer. Il va y avoir une très très forte accélération, en particulier en raison de la détérioration du cycle de l'eau, qui fait que là, on voit les effets concrets, directs et immédiats de déséquilibre des écosystèmes. Donc avec une croissance de 15 à 20% par an sur ces métiers-là, que ce soit les ouvriers, les chefs d'équipe, chefs de chantier, conducteurs de travaux, maîtres d'œuvre, assistants, maîtrises d'ouvrage, le besoin de formation, il est absolument essentiel. Donc toute la question de ces pôles de compétitivité, ou enfin ces pôles d'excellence que l'on veut monter, il est d'être capable d'anticiper les besoins dont nous aurons besoin, nos besoins dans un an, deux ans, cinq ans, qui ne sont pas que des besoins quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Et c'est à ça que servent ces pôles. Parce que si on travaille avec le rétroviseur en regardez, jusqu'à présent on a fait tel type de formation et on va juste augmenter le résultat, on continuera à trouver des solutions sur l'ancien modèle qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, n'est pas satisfaisant. Alors attention, hein, je précise, je ne critique pas l'ancien modèle, la méthode ERC, ça, c'est mieux que rien du tout, c'était même essentiel. Par contre, ça ne résout pas le problème. C'est bien ça, effectivement, la question que l'on doit se poser aujourd'hui. Donc l'enjeu de formation pour l'UPGE, c'est quelque chose de fondamentalement stratégique. Et l'UPGE, parce que je parle en son nom, mais c'est pareil pour l'AIGECO, et c'est pour ça qu'on a fait effectivement cette table ronde. Et c'est pas... Alors, c'était intéressant de parler effectivement des fonctionnaires, mais c'est aussi tous les maîtres d'ouvrage, c'est aussi les élus, qu'ils recommencent à penser comme des êtres vivants, et qu'on ait effectivement cette question de vision commune. Et que la technique soit au service d'une vision, et pas simplement que la vision soit la somme des techniques. Et c'est ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui en travaillant en silo. Or, la vie, comme je l'évoquais tout à l'heure, est basée sur les interactions avant tout, donc le travail en silo ne peut effectivement pas fonctionner. Et la relation avec la recherche, et là je parle en tant que président d'une chaire, donc la question de la chaire, c'est enseignement et recherche, les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. C'est pour ça que je vous dis qu'on vit une période qui est extraordinaire, c'est que de recommencer à penser ensemble, parce que nous sommes contraints à le faire par ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est pas parce qu'il y a deux, trois trucs qui fonctionnent pas aujourd'hui que c'est fini, quoi. Donc voilà, c'est vraiment insister sur cette nécessité de découvrir ensemble les outils à la fois de recherche et d'enseignement et de formation, alors initiale, mais aussi continue, qui nous permettent de basculer dans une nouvelle ère qu'on a à construire ensemble.
Merci Patrice. D'ailleurs, Monsieur Simonet me précisait qu'il n'y avait pas que de la formation initiale du côté d'Albi.
Donc nous aussi, nous sommes un centre de formation professionnelle continue, on est référencé Calliope, on fait de la formation pour parfois les acteurs locaux, alors divers et variés. Donc s'il y a une activité décentralisée, locale à faire, donc nous on est au milieu de la nature et on peut vous accueillir sans souci. Et puis s'il faut partager des expériences avec ce point de labellisation des formations et être dans le cadre du Bac plus 3, avant d'arriver à la recherche, on peut apporter notre petite vision. Hein. On est ce qu'on est et on ne se prétend pas avoir toute la science infuse, mais par l'expérience, on fait peut-être des choses qui peuvent être innovantes et des fois qui existent déjà ailleurs, donc on n'est pas parfait et loin de là. Mais s'il faut accompagner, on se mettra à votre disposition.
Merci, c'est le collectif. Oui, et puis après on réessayera.
Ouais, pour compléter le panel justement de ce qui a été dit sur les aspects enseignement formation, moi j'appartiens donc à un organisme Toulouse INP qui a son cœur de métier sur la formation d'ingénieurs, mais donc avec différentes écoles. Pour ma part, donc je suis sur l'école d'agronomie, j'enseigne sur l'école d'agronomie, mais on a plusieurs écoles sur Toulouse INP. On a l'NCSF, donc qui est une école de chimie. On a plutôt donc du procédé historiquement qui est fait avec des collègues qui sont sur des problématiques de traitement de l'eau avec des traitements historiquement plutôt qualifié dans des solutions technologiques, de solutions de risque, etc., mais qui s'ouvrent de plus en plus justement à l'innovation et à l'interfaçage avec des solutions fondées sur la nature. Alors récemment, on avait des discussions avec des collègues, on a vu d'ailleurs qu'il y avait des difficultés sémantiques parfois, qu'il y a vraiment une réelle nécessité d'acculturation. On a l'Insight donc, qui est plutôt sur le numérique, sur l'hydraulique, et donc on a ce souhait également de monde. Alors on a déjà une formation continue, initiale évidemment, mais on a également dans le cadre justement des dispositifs qui ont été évoqués, notamment en déclinaison régionale, justement des métiers d'avenir, là le projet qui est venu récemment, on a déposé un certain nombre de projets, notamment sur une formation très interdisciplinaire sur la gestion territorialisée de l'eau en milieu urbain et en milieu rural, avec vraiment l'interfaçage donc notamment entre ces trois écoles. Et pour répondre à mon voisin de droite, hein, quand je parle de zone atelier, je ne parle pas que de fonctionnaires. Puisque je vous ai parlé de groupements d'agriculteurs, on travaille beaucoup parmi les partenaires, on a des entreprises, j'ai pas trop développé cet aspect là mais évidemment le point focal, ce qui nous intéresse dans ces dispositifs, à la limite pour travailler entre fonctionnaires, on n'aurait pas besoin des zones ateliers. Les zones ateliers, c'est justement le point de rencontre entre la recherche, notamment académique, et justement les acteurs territoriaux.
Merci. Alors on va réessayer avec monsieur Pensmeyer. Est-ce qu'on peut réessayer ? Ah, c'est un peu mieux. Vous entendez ? Essayez de parler au maximum, si vous pouvez monter votre son au maximum. On va voir vos paroles en silence, alors.
Alors, je peux vous pousser la voix, mais vous direz à quel...
Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Ok. D'abord, je vous demande excuses de passer parmi nous, je pense que ça a mis un certain bazar dans l'organisation, donc bravo aux organisatrices et aux organisateurs. J'interviens un peu comme un chien dans un jeu de pique parce que je n'ai pas pu suivre l'échange.
Vous voulez que je remette à niveau ? Alors on a fait une introduction avec Patrice Valentin. Ensuite, M. Arnaud Alger nous a présenté, justement, comme il vient de le redire, les zones ateliers, ces éléments de recherche et d'interface. Et puis, on était allé avec M. Simonet jusqu'aux formations, y compris Bac plus 3. Et donc, on était vraiment sur ces questions de formation. Donc, ça me paraissait logique de vous passer la parole à vous d'abord, pour rebondir.
Ok, alors, je vous ai entendu tout à l'heure parler de l'email qui s'est c'est pas le cœur de mon sujet. Juste pour revenir sur ce que vous avez dit, l'UPGE a présenté le financement de la liste et un diagnostic du besoin en France. Et donc, c'est de là que commence mon investissement sur le dossier. Mais ce dont je voulais vous parler, l'entraînement, c'est un autre dispositif qui aurait intérêt, pour son outil, de mettre en visibilité le secteur du génie écologique, ce qui est l'objectif de notre feuille de route nationale, et pour faire monter en visibilité ce secteur au travers du développement de son offre de formation et surtout des partenariats qui peuvent être noués dans le cadre d'un travail sur les formations. Il y a des partenariats qui peuvent être noués au niveau de l'activité de recherche, au niveau de l'activité de recherche et développement, on a parlé des pôles d'excellence, on a parlé des pôles de sécurité. Les actions de formation, c'est une autre façon de contribuer au succès du secteur. Et je vais parler de la réalisation à reconnaître par les institutions comme le Conseil régional et l'Académie et les droits pour finalement les amener à soutenir le développement du génie écologique. Ce dispositif dont je voulais parler, si ça correspond à un besoin de la
oui.
C'est le dispositif de corpus des métiers et d'application des CNQ.
CNQ, entendu.
Le CNQ, il s'agit d'un label qui est accordé par une commission israélienne, mais peu importe. L'important, c'est que ce label, il est accordé à des partenariats qui sont au niveau régional. Par un secteur et autour du sujet de la formation, des besoins en formation, en ayant souci d'articuler les établissements de formation, ça peut être du scolaire, ça peut être de l'enseignement supérieur, les organismes de la formation continue aussi bien. Donc, tous les établissements et les offres de formation, et les utilisateurs qui sont les acteurs économiques, les acteurs de la filière. Et ce partenariat, ces partenariats ont vocation à se développer au niveau régional, parce que vous savez, l'échelon régional est l'échelon qui structure l'offre de formation, les portes de formation, par exemple, les consultes et les universités économiques. Donc l'échelon régional, il est vraiment décisif. Ce projet de CNQ doit partir du terrain. Je passe les cerveaux systématiques. La question suivante, pour vous en faire un peu plus, je vous ai dit que je ne peux pas dire. Donc, si c'est des choses sur des formes, vous pouvez les faire partout. Et on n'aura pas le partenariat de l'AI, il n'y a pas un statut déterminé. Elles peuvent être adossées à un établissement en ce moment, à un chiffre, etc. Donc, il y a une ouverture là-dessus. Ça donne lieu à quoi? Ça donne accès à quoi? C'est un accès de recouvrer à la visibilité, puisqu'il va être endossé par le Conseil régional et le directeur d'Académie. Et donc, on va structurer un lieu de départ qui va pouvoir aller chercher des financements. Alors, il y a un petit financement apporté par le rectorat pour l'innovation, et puis après, ça permet d'être sur l'eau de la victime quand on va postuler à donner le rappel à projet. Et surtout, avant d'aller chercher des sous ou avant de prendre les sous, il s'agit de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble et voir les travailleurs des échanges, les travailleurs des travaux qui ont lieu à la communauté sur le live de France, tous les travaux sur la communauté écologique, la communauté nationale, Thank you.
Merci beaucoup. Oui, mais il n'y a pas de raison maintenant qu'on vous tient. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Vous avez trop chaud ou tout était clair? Il y a déjà des choses qui ont commencé à émerger? Il y a déjà des premières pistes?
Alors, il y a des premières pistes, effectivement. Je crois que vous allez à l'écran un acteur qui a déjà saisi son école de la tutelle qui avait en tête au travers de la mise en place d'un bachelor sur ces questions-là, mais aussi pour définir l'entreprise, qui a en tête d'aller vers un sélectif de résultats. Ce que je vous rajoutais, c'est que le réflexe, le propos même de ce sélectif, il est à définir par les acteurs. C'est en d'autres cas, c'est pour le bâtimentaire, sur lequel je travaille aussi. On a des sélectifs qui vont travailler sur la rénovation du bâtiment, on a qui vont travailler sur des matériaux, on a qui vont travailler sur la gestion numérique. Vous voyez, le périmètre, il est vraiment à l'état de la région. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs sélectifs dans plusieurs régions qui émergeraient sur les sujets écologiques, mais peut-être chacun avec sa tonalité, avec le correspondant à son tissu économique spécifique dans quelques régions. Si on est sur une région forestière, sur une région agricole, sur une région très urbaine, très industrielle, on est à tous les sujets écologiques qui sont parallèles.
Et alors c'est peut-être moi qui n'ai pas entendu ou pas écouté au bon moment. A priori, c'est quelle durée de temps?
Alors le label il peut être accordé jusqu'à 5 ans. Donc il ouvre le droit à une institution ou un directeur qui s'est vu. Et donc c'est entre 3 et 5 ans. Et il y a aussi un fonctionnement en réseau des différents CMU, s'appuyer les uns les autres pour partager les expériences, etc. Et donc il y a un processus de révision des publics et d'accompagnement des CMU. Puis, dernier élément, c'est que les attentes vis-à-vis de ces CMU vont évoluer, parce que là, on peut être un peu expérimental, à une échelle relativement restreinte. Aujourd'hui, il y a une forte demande des acteurs. Pour que ces coûts emportent véritablement tout ce qui concerne toutes les entreprises, les établissements, les transsecteurs, comme il faut vraiment qu'il y ait une couverture régionale et pas simplement une ambition qui est en fait de faire ces coûts et qui leur donne de plus en plus de force et de visibilité dans le paysage.
Merci. Des éléments complémentaires? Est-ce que ce sera suivi d'un point de vue recherche sciences sociales, la façon dont justement ces outils se développent, ce qu'ils permettent de faire naître, comment les acteurs se réorganisent peut-être aussi à cette occasion-là?
Oui, alors des études qui ont été produites déjà par l'Institut de Sciences.
D'accord.
Il y a une enquête qui est donnée par le service de l'éducation nationale, le GSO, sur le déploiement des CMU. Et effectivement, on peut espérer que des recherches pour voir quels sont les obstacles que nous avons trouvés, comment ça va être le cas à part, dans le
Donc on se donne rendez-vous dans 5 ans.
D'accord, merci. Et c'est ancré dans la région Occitanie tant qu'à faire. Merci beaucoup. Vous avez plus de questions? Non? Ben dans ce cas-là, je vous propose d'essayer de rester avec nous et puis d'essayer de demander à M. Gautelan si on arrive à l'entendre. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit test? Ah, mais oui, on vous entend bien. Alors, vous avez pu nous suivre? Un petit peu?
Je vous avoue pas. Je vous ai suivi, mais c'est pas très bien d'être au moins des murs. J'ai pas très bien du monde, mais nous allons continuer.
Bon, bah écoutez, je vais. C'est vrai que le terme qui était attaché à votre intervention, c'était pôle de compétitivité. Et donc, peut-être que je vais vous laisser, du coup, vous présenter et nous présenter ce véhicule qui vient compléter un peu le panel qu'on essaye de faire dans cette table ronde.
Merci de m'accueillir en France. Je suis en fait le directeur scientifique d'un pôle du pôle de compétitivité sur les infrastructures. Ça s'appelle Intran 2050. Et donc, je vais vous tourner en fait un vecteur, vecteur pôle de compétitivité. Le pôle de compétitivité, c'est une structure. Qui peut être une association qui est super administrative, qui en fait a aussi un appel de la transformation des entreprises du ministère de l'Arctique, en fait, pour accélérer la compétitivité d'un secteur plus fusion. Notre pôle de transformation est tout récent. Nous avions répondu à un appel à souhaite en 2022 et la décision en 2023. Il n'existe pas, jusqu'en 2023, de pôle de compétitivité pour le secteur de la construction infrastructure, donc aménagement, fabrication, rénovation, par exemple, c'est quand même un indice. Donc nous avons décidé à faire cette question de proposer, donc nous avons ce rappel, nous avons voulu en mars 2023, et depuis, on peut parler de la baisse pôle de compétitivité. Alors à quoi sert le pôle de l'idée, un document d'utilité, c'est un catalyseur de projet collaboratif. Donc nous bénéficions de subventions de l'État et de région qui portent le pôle. Concernant notre pôle, nous sommes passés par deux régions administratives, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et nous avons un champ d'action national au travers de l'association qui est un pôle. Direct, c'est l'Institut pour la recherche et l'expérimentation en génie et plus largement spécifiquement sur les impacts sur les disciplines de l'impact. Voilà, le projet collaboratif, c'est quoi? Donc en fait, c'est accompagner les acteurs qui ont une idée d'innovation, de R&D. Donc, en matière de recherche et d'édition, nous accompagnons les acteurs pour les aider à s'appliquer leur projet collaboratif qui vise à sortir des dossiers pour répondre à des appels d'offres qui peuvent être des partenaires nationaux, nationaux et européens. Dans le programme, le thématique spécifique de phase nous avons une spécifique sur la décarbonation du secteur au travers des transactions. Voilà. La numérisation, le changement, la partie de l'économie, sont aussi une partie de l'économie. Certains guichets conditions d'accorder du projet à avoir ce label. Alors, nous ne sommes pas les seuls sur le marché du jour. Il y a actuellement 56 points de compétitivité. Par exemple, dans notre compagnie, vous avez des points de compétitivité à la gestion de la culture. Il y a quand même quasiment tous les filières qui nous utilisent de cette question, qui a vraiment condition de catalyser des projets pérennes avec des objectifs économiques, faire des projets, pour la compétitivité, création d'emplois, accompagnement, innovation dans la partie de la culture.
Oui, c'est plutôt. Oui, non. Merci. Et du coup, vous aussi, c'est une labellisation pour 5 ans, c'est ça?
Alors, nous avons été labellisés pour 5 ans, tout à fait, pour tous les pôles. C'est-à-dire tous les pôles sont placés dans la lunette en 2022, tous les pôles existants. Certains communes ont eu l'ambition d'avoir ce nouveau label. Donc, nous avons été plus à la réalisation de la
Quand on a préparé cette table ronde, vous disiez qu'il y avait des liens entre les différents pôles, c'est ça?
Tout à fait. Alors, beaucoup de premiers de LND sont en place. Et donc, ce qu'on appelle la compétence du savoir-faire des différents pôles. Par exemple, si nous avons un projet à travers l'infrastructure numérique, à travers l'IA ou le capteur, le lien peut se faire et se fait entre par exemple le pôle interministériel, mais également avec le pôle qualificable qui est basé en Ile-de-France. Et là, spécifiquement, une mission qui est faite sur la partie numérique. Le numérique étant le plus long, donc tout le monde parle de numérique pour le jeu numérique, mais ils ont aussi une numérique pour la science. Donc, voilà, on a un lien avec l'infrastructure. On peut avoir un lien avec les géologistes, un peu qui est basé sur le projet. On est parti, par exemple, le lien entre la végétalisation, qui est en lien avec le verre, qui est végétal, et l'infrastructure. L'idée des collabilisations, et dans tous les cas, il y a une relation assez simple entre les pôles, sachant que tous les pôles sont essentiellement également au sein d'une association spécifique qui est depuis son entreprise, en fait, qui représente tous les pôles de l'activité et qui part en commun de plus de 20 ans de technologie et de l'État pour la chaîne par discussion.
Écoutez, merci beaucoup, c'était très clair, presque très fort. En termes de son, on vous a entendu. Est-ce que, pour finir ce tour de table des acteurs un petit peu sportifs, est-ce que vous avez des questions qui vous sont venues à l'esprit en termes de ces interfaces de recherche, de collaboration, interface avec les acteurs, formation, à quelque niveau que ce soit, qui sont tous des besoins dont on partage, j'imagine, l'importance? Est-ce que à distance ou dans la salle Ah, Yannick a une question. Non, écoute, Mélanie. fais tout le tour pour t'apporter le micro.
Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Boitelan, donc Yannick Autret, délégué général de l'UPGE. Peut-être deux remarques. C'est vrai que je vais utiliser deux casquettes, mon ancienne et ma nouvelle. Mon ancienne, c'était que j'étais le secrétaire du programme national de recherche en infrastructure et environnement au MTE, donc le programme ITCOP. Et avant de partir, je voulais prendre contact avec vous, mais je pense que clairement, il y a un programme national sur les sujets infra et environnement qui existe. Donc il faudrait que le pôle et ce programme se rencontrent avec mon successeur. Donc je vous enverrai ses coordonnées pour que vous puissiez le rencontrer et voir ce qui est possible de faire. Deuxième casquette, c'est avec l'UPGE. Moi je suis le délégué général. Il est certain qu'aujourd'hui, la montée en puissance du génie écologique est un enjeu majeur pour nous et que les infrastructures, à ce titre-là, sont un des principaux... les opérateurs d'infrastructures sont les principaux interlocuteurs qu'on a aujourd'hui. Et donc là aussi, on a beaucoup de pistes de collaboration. Je sais que vous en avez déjà discuté avec Sylvain Moulera et Mélanie pour la préparation, mais on a énormément d'éléments d'action en coopération avec eux. On travaille aussi avec l'IREX. On est impliqué dans plusieurs projets nationaux. Voilà, je pense qu'il y a un vrai potentiel aussi de liaison avec le pôle de compétitivité et les différentes déclinaisons d'actions avec la FNTP au travers de l'IREX ou de toutes les autres actions qui sont engagées. Voilà, en tout cas, merci beaucoup.
Donc, la rue n'est pas l'association de CIDAS, c'est vrai que ça reconduit avec le préfet régional, on ira avec le préfet régional, qui est activé lundi,
du génie écologique. Je pense qu'on aura à se parler aussi dans ce cas-là, Monsieur Boitelan, puisque je suis la responsable de la chaire de génie civil écologique qui a été initiée par le STP, l'UPGE et AgroParisTech pour... Et ben voilà, on se rencontrera peut-être autrement que par les ondes la prochaine fois. Ce sera avec plaisir en tous les cas. Oui. Donc il y a beaucoup d'acteurs sur ces sujets, mais il y a beaucoup de choses à faire, c'est ce que vous nous avez rappelé, il y a beaucoup d'enjeux, y compris au niveau des territoires, y compris évidemment au niveau de différents outils, domaines de connaissances. Donc on avait centré a priori cette table ronde sur le développement d'un pôle d'excellence, comme ça vous trouvez le terme que vous voulez mettre derrière pour avoir un véhicule. On avait parlé à la table ronde précédente des enjeux d'intelligence artificielle ou en tous les cas de numérique. Donc c'est vrai que j'espère que les interventions de ces messieurs vous auront inspiré sur les différentes pistes qu'on peut prendre justement pour monter en compétences et que dans cette jolie région qui nous accueille aujourd'hui, il y ait des projets qui se construisent de cette façon-là. Et étant donné l'heure qu'il est, peut-être qu'on va clôturer maintenant et pour ensuite embrayer dans 20 minutes sur le café débat, c'est ça? Ça vous va? Et donc je voulais remercier infiniment les intervenants à distance ou de visu et merci pour la gymnastique et l'improvisation, y compris dans la salle.